Vous écoutez On lit pour vous.
Coup de chaud. Un texte de Maxime Bilodeau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Vous avez la mèche courte quand il fait une chaleur extrême? Rassurez-vous, vous vous en tirez probablement mieux que beaucoup de monde. La même scène se joue année après année lors des premières chaleurs dans les bureaux de Confort Expert. Du jour au lendemain, l'entreprise montréalaise se retrouve assaillie de demandes pour des climatiseurs et des thermopompes de la part de particuliers, et ça presse. Si on écoutait les gens, il faudrait intervenir dans l'heure ou presque, raconte Mathieu Lemaître, directeur des ventes et du marketing de Confort Expert. On reçoit même des requêtes par formulaire en pleine nuit. Malgré cette panique et la bonne volonté du personnel, rien n'y fait. Les délais d'installation explosent pour atteindre plusieurs semaines, et ce, pendant toute la belle saison. L'air de rien, cette réaction épidermique en dit long sur la manière dont les étés particulièrement chauds et humides du Québec jouent entre les deux oreilles de la population. Agressivité, détresse, agitation. Les répercussions sur la santé mentale sont nombreuses et bien documentées. La demande en climatisation, c'est vraiment émotif, confirme Mathieu Lemaître. On a beau suggérer à notre clientèle d'y voir durant l'entre-saison, c'est peine perdue. Elle se réveille seulement quand elle étouffe. Le refroidissement du domicile devient dès lors plus qu'un simple luxe. Il s'agit d'une nécessité pour retrouver sa bonne humeur. En raison du réchauffement climatique, l'usage de la climatisation acquiert en fait le statut de nouvelle norme sociale. Selon Statistique Canada, près de 7 ménages québécois sur 10, 69,3%, possèdent un système de climatisation, une proportion comparable à la moyenne canadienne, 68,3%. Les propriétaires et les ménages gagnant plus de 150 000 $ avant impôts sont néanmoins plus susceptibles de posséder de tels appareils que les locataires et les personnes gagnant moins de 50 000 $, souligne l'agence gouvernementale. Ironiquement, le mode de vie des premiers contribue davantage au changement climatique en émettant plus de gaz à effet de serre, GES, que celui des seconds. Victime de la chaleur. Le cerveau compose plutôt mal avec les vagues de chaleur. Une des principales théories à ce sujet stipule que les ressources, sang, glucose, etc., normalement allouées aux fonctions cognitives plus complexes, comme le raisonnement, seraient alors redirigées vers la régulation de la température corporelle. Toute la neurochimie s'en trouve affectée, ce qui perturbe la communication entre les diverses régions du cerveau et nuit à son bon fonctionnement, résume Éric Lavigne, chercheur scientifique au Bureau de la science et de la recherche en santé environnementale de Santé Canada. L'impatience, la colère, l'impulsivité sont le propre d'un cerveau qui réagit fortement à la chaleur. À l'échelle collective, il est possible de relever de grandes tendances attribuables à ces moments où, en réaction à un environnement stressant, les fils se touchent. L'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, rapporte par exemple une augmentation du risque de suicide allant jusqu'à 37% pour chaque degré Celsius au-delà d'une température confortable. Au Canada, ce risque serait 1,46 fois plus élevé à 24 degrés Celsius qu'à moins 15 degrés Celsius. Autre exemple, à Los Angeles, une hausse de 5,72% des crimes violents rapportés a été observée lorsqu'on approche des 30 degrés Celsius. Pour les criminologues, la corrélation entre la chaleur et la hausse des actes criminels fait d'ailleurs office d'importantes variables à prendre en compte. Certains segments de la population font davantage les frais de ces dérapages, notamment les femmes. Selon un rapport des Nations Unies publié en 2025, chaque augmentation de 1 degré Celsius de la température mondiale est associée à une hausse de 4,7% des violences conjugales à l'échelle du globe. Il y aurait même davantage de féminicides dans la foulée des épisodes de canicule, conclut une étude espagnole à partir de données récoltées dans la région de Madrid entre 2008 et 2016. De manière générale, les violences envers les femmes augmentent avec le mercure, selon un article de synthèse publié en 2025 portant sur plusieurs pays. L'épisode du dôme de chaleur en Colombie-Britannique est aussi riche en enseignements à ce chapitre. Pour rappel, à la fin juin 2021, le thermomètre affiche des valeurs d'environ 20 degrés Celsius supérieures à la normale. Le mercure grimpe même jusqu'à 49,6 degrés Celsius dans la ville de Lytton, un record au pays. Conséquence, la province enregistre 619 décès liés à la chaleur durant cette semaine suffocante. Parmi les victimes, on trouve 8 % de personnes atteintes de schizophrénie, alors qu'elles ne représentent que 1 % de la population du Canada. La surmortalité parmi ce groupe s'explique certes par l'exacerbation des symptômes de psychose, mais aussi par l'utilisation de médicaments antipsychotiques. Malgré leur utilité indéniable, ceux-ci nuisent, hélas, à la capacité du corps à réguler sa température. L'individu peine à percevoir qu'il a trop chaud et qu'il lui faut donc réagir, en buvant de l'eau, par exemple, affirme Éric Lavigne, qui est aussi professeur auxiliaire à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Ajoutez au portrait une plus grande propension à vivre dans la pauvreté, voire en situation d'itinérance, et vous obtenez un cocktail explosif. Quelle justice face à la chaleur! La chaleur s'immisce en réalité dans la plus stricte intimité de ses victimes. Lorsqu'elle sévit, cette tueuse silencieuse pousse ainsi à l'isolement social, indique l'INSPQ, en particulier les personnes âgées, avec des incapacités ou à faible revenu. Les nuits trop chaudes tendent aussi à raccourcir le nombre d'heures de sommeil, ce qui augmente d'autant plus les comportements marqués par l'irritabilité et l'anxiété. Dans un monde qui se réchauffe sans cesse, les températures nocturnes élevées nous volent déjà plusieurs dizaines d'heures de sommeil par année en moyenne. Les personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés sont de nouveau singulièrement pénalisées. Parce qu'elles vivent dans des logements mal rafraîchis et mal isolés, plus bruyants et souvent situés dans des zones urbaines pauvres en espaces verts, elles sont plus fortement affectées lorsque le thermomètre fait des siennes. C'est pourquoi on qualifie la chaleur d'amplificateur majeur des écarts de santé entre différents groupes sociaux, fait valoir Jenny Hull, professeur au département de psychologie de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé. Vous écoutez « Coup de chaud », un texte de Maxime Bilodeau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Dans les quartiers sans végétation suffisante, la température peut être 12 degrés Celsius plus élevée qu'ailleurs. Avec son équipe, la chercheuse réalise une étude sur l'expérience de la chaleur accablante de certains sous-groupes marginalisés de la population, comme les personnes appartenant à une minorité visible ou souffrant de maladies, de handicaps ou d'affections chroniques. Le but? Lever le voile sur leur vécu trop souvent passé sous silence, notamment les stratégies d'adaptation mises en place lors des périodes de grande chaleur comme celle de l'été 2018, qui a fait 66 morts en quelques jours sur l'île de Montréal, dont 26 % de personnes atteintes de schizophrénie. Ultimement, on veut prévenir des morts évitables, en guidant par exemple des actions de santé publique, lance-t-elle. La vingtaine d'entrevues, sur 50, réalisées jusqu'à maintenant, révèle comment le quotidien de ces personnes prioritaires lors des épisodes de chaleur écrasante devient alors un véritable enfer. Le simple fait de se rendre dans un endroit climatisé, comme une bibliothèque, est compliqué, voire coûteux. Et parfois, le seul lieu accessible est payant, comme un café. On nous a également confié garder les fenêtres de son logement fermées le soir venu, malgré la chaleur, par peur de subir une violation de domicile, expose Jenny Hull. Plus les gens cumulent de facteurs de vulnérabilité, plus les désagréments s'avèrent majeurs. Une fausse solution. Certaines personnes participantes ont raconté avoir accès à un appareil de climatisation à la maison, mais ne pas le mettre en marche pour réaliser des économies sur leurs factures d'électricité. Ce faisant, elles se privent d'une des solutions les plus efficaces pour composer avec la chaleur, du moins d'un point de vue individuel. À une échelle plus large, c'est une autre histoire. En effet, les climatiseurs rejettent de l'air chaud à l'extérieur, ce qui contribue à renforcer le phénomène d'îlots de chaleur. Sans parler du fait que leur consommation énergétique élevée et leur fluide frigorigène, de puissants GES, font de la climatisation la responsable de 7 % des émissions annuelles de carbone dans le monde, selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Mis bout à bout, ces paradoxes dessinent un cercle vicieux. Les chaleurs intenses alimentent la demande en climatisation qui, elle-même, entraîne une hausse des GES alimentant l'urgence climatique. Pour Éric Lavigne, cela illustre la nécessité de se tourner vers d'autres solutions d'adaptation à la chaleur, qui auraient en outre l'avantage de bénéficier à l'ensemble de la population. Pensons au verdissement et à la déminéralisation de nos villes, à la mise en place de meilleurs systèmes de vigie et d'alerte, aux mesures d'efficacité énergétique, énumère l'expert. Il faut faire vite. On estime que 5 milliards de climatiseurs seront en service dans le monde d'ici 2050. C'est l'été, au voleur. Si vous circulez au centre-ville de Montréal en plein four, prenez garde. Vous êtes plus à risque d'être la victime d'un vol ou d'une voie de fait qu'en temps normal. En hiver, par exemple, tranche une étude réalisée pour le compte du service de police de la ville de Montréal en 2010. Pour ses auteurs, deux chercheurs à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, cette conclusion va de soi puisqu'il y a tout simplement plus d'occasions de commettre un crime lorsqu'il fait beau. D'un point de vue théorique, le niveau de criminalité est lié aux activités routinières, explique l'un d'eux, Rémi Boivin. Durant la belle saison, dans les pays à climat tempéré comme le Canada, davantage de gens vont et viennent à l'extérieur, ce qui fait émerger des occasions d'infraction de faible gravité. A contrario, on constate le phénomène inverse dans les régions du globe où les saisons sont peu marquées, comme en Arizona, où la courbe annuelle de la criminalité est beaucoup plus lisse. Cette relation statistique indirecte constitue par ailleurs un fait bien accepté par la communauté scientifique, spécifie le professeur en criminologie. La température fait souvent office de variable dont il faut tenir compte pour en éliminer le rôle dans nos analyses. On ne voudrait pas invalider des résultats de recherche parce que nous avons négligé d'examiner l'effet de la saisonnalité, qui est synonyme de variation dans les rythmes sociaux, souligne Rémi Boivin. Chaleur. D'autres espèces en souffrent aussi. La salamandre à ventre noir, Desmognathus amphileucus, a beau être à peine plus longue qu'une main, elle pourrait sérieusement blesser la vôtre si d'aventure vous vous approchiez d'elle par temps chaud. Une étude publiée en 2019 mentionne en effet que le petit animal habitué aux ruisseaux du sud des Appalaches est 4 fois plus susceptible d'adopter un comportement agressif à 25 degrés Celsius qu'à 15 ou 20 degrés Celsius, une température plus normale pour lui. Salamandres, fourmis, poissons. On observe un lien entre la chaleur et l'agressivité auprès de plusieurs espèces, pas juste chez l'humain. Si cette relation s'avère plutôt forte chez celles à sang froid qui dépendent de leur environnement pour réguler leur température corporelle, elle est toutefois moins fréquente chez les mammifères. Ces derniers peuvent en effet refroidir leur corps, par la transpiration ou la respiration haletante, par exemple. Le réchauffement planétaire les force néanmoins à élaborer des stratégies pour s'adapter aux températures de plus en plus élevées. Des espèces nordiques, comme la chèvre de montagne ou le caribou, vont ainsi réagir en cherchant de l'ombre à la mi-journée, à l'heure de la sieste, dit Steve Côté, professeur au département de biologie de l'Université Laval. L'énergie et le temps qu'elle consacre à cette quête de fraîcheur ne sont toutefois pas alloués à chercher de la nourriture ni à se reproduire. C'était « Coup de chaud », un texte de Maxime Bilodeau paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Alzheimer, Les chercheurs identifient une boisson consommée par des millions de Français comme un facteur de risque majeur. Un texte de article rédigé par Rédaction Futura, publié le 30 juin 2026 dans Futura Science. Le mythe du petit verre quotidien protecteur vient de voler en éclats. Une vaste étude brésilienne établit un lien direct entre la consommation d'alcool, même modérée, et le risque de démence et d'Alzheimer. Plus troublant encore, les lésions persistent longtemps après l'arrêt. Et si nos apéritifs favoris pesaient bien plus lourd qu'on ne l'imagine sur notre cerveau? Alors que la croyance d'un verre quotidien sans danger reste tenace, une recherche d'envergure menée par une équipe brésilienne vient bousculer ces certitudes. Publiés dans la revue Neurology, ces travaux apportent des preuves tangibles reliant la consommation d'alcool à la dégradation du système vasculaire cérébral et à l'apparition de la maladie d'Alzheimer. De quoi redéfinir la notion même de danger pour notre mémoire. Une enquête au microscope sur 1781 cerveaux. Pour aboutir à des résultats aussi solides, les scientifiques ont mené un travail d'une précision chirurgicale. L'autopsie et l'analyse au microscope des structures cérébrales de 1781 personnes décédées issues d'une grande biobanque gériatrique de Sao Paulo. L'objectif était d'établir un lien direct entre les habitudes de consommation déclarées par les proches du vivant des individus et l'état de leur système vasculaire cérébral. Les examens se sont concentrés sur les lésions des petits vaisseaux et sur les marqueurs moléculaires caractéristiques d'Alzheimer. Le verdict est sans appel. L'alcool, sous toutes ses formes, bière, vin rouge, vin blanc ou spiritueux, ressort comme le seul responsable de ces altérations. Les chercheurs ont réparti les sujets en quatre groupes. Abstinents stricts, buveurs modérés, jusqu'à 7 verres standards par semaine, gros buveurs, 8 verres et plus, et anciens consommateurs. Des chiffres alarmants dès la consommation modérée. Les résultats donnent le vertige. Dès le stade de la consommation dite modérée, le risque d'artériosclérose hyaline, une pathologie qui altère gravement les petites artères cérébrales, bondit de 60 %. Il grimpe à 133 % chez les gros buveurs et reste élevé à 89 % chez les anciens consommateurs. Le seuil de bascule vers le danger s'avère étonnamment bas. À peine plus d'un verre par jour, soit 8 par semaine. Pour le docteur Mike Sevilla, cité par les médias de santé, ses conclusions confirment que la consommation chronique d'alcool est directement associée au développement des démences et d'Alzheimer. Les analyses ont par ailleurs révélé une accumulation massive d'enchevêtrements de protéines tau chez les consommateurs réguliers, perturbant la microcirculation et provoquant la mort des neurones liés à la mémoire. Des séquelles qui ne s'effacent pas. Face à ces données, les autorités sanitaires, à l'image de la Société française d'alcoolologie, martèlent qu'aucun niveau de consommation n'est totalement sans risque pour le cerveau. Le mythe du petit verre protecteur s'effondre devant la réalité des tissus observés. Plus inquiétant encore, l'arrêt ne répare pas tout. Les anciens gros buveurs conservent des séquelles indélébiles. Perte significative de masse cérébrale, score de démence élevé et espérance de vie réduite. La preuve que les lésions structurelles persistent même après avoir cessé toute consommation. Au moindre doute sur sa consommation ou pour être accompagné dans une démarche d'arrêt, un professionnel de santé reste le meilleur interlocuteur. C'était Alzheimer, les chercheurs identifient une boisson consommée par des millions de Français comme un facteur de risque majeur. Un texte de article rédigé par Rédaction Futura, publié le 30 juin 2026 dans Futura Science. Thank you.
Et si l'intelligence artificielle redonnait du sens au travail? Un texte signé Mike James Rust, qui effectue actuellement un doctorat à l'Université Concordia, portant sur le sens du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Son texte est publié dans la page idée du Devoir du 13 juillet 2026. Le travail, qu'il soit rémunéré ou non, occupe la majeure partie de nos heures d'éveil. Pour bon nombre d'entre nous, il contribue à définir notre identité et constitue un élément essentiel de nos relations avec les autres. Or, depuis peu, lorsque je parle à des amis, à des collègues et à des clients, je perçois un désengagement croissant à l'égard du travail, ainsi qu'une certaine désillusion, souvent associée à l'essor de l'intelligence artificielle. On me parle d'épuisement, d'incertitude et d'une perte de pertinence. Mais ces préoccupations recèlent des questions plus profondes. Si une machine peut faire ce que je fais, qui suis-je et pourquoi est-ce que j'importe? Dans un monde où mon travail est amélioré, facilité et partiellement remplacé par l'intelligence artificielle, comment puis-je encore y trouver du sens? Ce n'est pas la première fois que notre conception du sens du travail se transforme. Aristote, par exemple, considérait le travail porteur de sens comme une expression de la vertu. Plus tard, les traditions chrétiennes ont proposé une autre compréhension du travail, celui-ci étant perçu comme une vocation confiée par Dieu. Cette conception a de nouveau évolué avec la révolution industrielle, les Lumières et l'avènement du capitalisme qui ont placé la satisfaction des besoins individuels, matériels comme psychologiques, au cœur de l'expérience du travail. Aujourd'hui, les chercheurs en psychologie et en gestion estiment généralement que l'autonomie, la compétence, le sentiment d'appartenance et la finalité constituent les principales sources de sens au travail. Arrêtons-nous brièvement sur chacune d'elles. L'autonomie correspond à la marge de manœuvre dont je dispose par rapport à mon travail. La compétence renvoie à la conviction d'être doué pour ce que je fais. Le sentiment d'appartenance correspond à l'attachement et à la reconnaissance que je ressens relativement à mon travail. Quant à la finalité, elle correspond à l'impression que ce que je fais contribue à quelque chose de plus grand que moi. Prenez un moment pour vous demander laquelle de ces dimensions joue le rôle le plus important dans votre expérience du sens au travail. Était-ce la même il y a 5 ans? Le sera-t-elle encore dans 10 ans? La présence grandissante de l'intelligence artificielle dans le monde du travail exerce une pression sur chacun de ses fondements du sens. L'IA modifie notre sentiment d'autonomie par une gestion algorithmique capable de vérifier ce que nous écrivons ou ce que nous faisons de nos pauses. Elle remet en question notre sentiment de compétence lorsqu'elle accomplit en quelques secondes des tâches qui exigeaient auparavant des années d'apprentissage. Elle s'interpose de plus en plus dans nos relations avec nos collègues à travers des mécanismes de rétroaction et d'évaluation. Enfin, elle soulève des questions concernant la finalité même de notre travail à mesure que nous nous éloignons des produits concrets de notre labeur. Ces changements peuvent susciter de l'inquiétude. Optimiste de nature, je vois plutôt une occasion extraordinaire de repenser la façon dont nous trouvons du sens au travail et d'adopter une perspective différente. Une perspective qui repose sur 2 sources de sens à la fois nouvelles et anciennes, le travail bien fait, le craft, et le service aux autres. Le craft consiste à accomplir une tâche pour elle-même plutôt que comme un moyen d'obtenir un bénéfice personnel. Il implique qu'on se pose la question « Ce travail est-il bien fait? » plutôt que « Qu'est-ce que ce travail dit de moi? » Je ne parle pas uniquement ici de métiers artisanaux comme le travail du bois ou la poterie. En fait, ce principe trouve son application dans tous les métiers, que l'on soit ébéniste, écrivain ou chauffeur d'autobus. La personne qui balaye une rue du mieux qu'elle peut, ou le musicien qui se perd dans son interprétation, même imparfaite, incarnent tous deux cette forme d'attention au travail lui-même. Le principe du service aux autres repose sur une logique semblable. Il consiste à porter son attention sur les bénéfices que notre travail procure aux autres. Il ne s'agit pas simplement du sentiment agréable d'être accepté au sein d'un groupe, ni du plaisir que l'on peut ressentir en racontant à un souper entre amis tout le bien que l'on fait autour de soi. Travailler au service d'autrui nous permet plutôt de dépasser nos objectifs personnels pour nous concentrer sur ce qui est bénéfique pour d'autres personnes. Comme dans le cas du craft, le travailleur cesse ici d'être le principal bénéficiaire de ses efforts. Son travail devient un moyen au service d'une fin qui le dépasse. Lorsque nous incarnons ces principes, nous développons une forme de sens qui dépasse notre seule personne et qui, pour cette raison même, gagne en solidité. Ces deux sources de sens ne sont pas liées à un métier particulier, mais plutôt à un état d'esprit et à une façon de percevoir la valeur du travail que nous accomplissons. Ils ont aussi l'avantage de ne pas dépendre de notre capacité à surpasser les machines. Si notre attention est dirigée vers la qualité du travail lui-même ou vers les personnes qu'il sert, l'IA devient alors un outil à utiliser avec discernement plutôt qu'une menace à craindre. Elle peut même nous permettre de consacrer davantage d'énergie à ce qui compte réellement. Le sens qu'on accorde au travail a toujours suivi le rythme des transformations religieuses, économiques et technologiques. L'arrivée de l'intelligence artificielle provoque aujourd'hui un nouveau changement de paradigme. L'occasion qui s'offre à nous consiste à chercher le sens, moins dans ce que le travail nous procure, que dans ce que nous y apportons, notre attention à la qualité du travail lui-même et notre contribution aux autres. Peut-être que l'IA ne prive pas le travail de son sens. Peut-être révèle-t-elle simplement les limites d'une conception trop individualiste du travail et nous invite-t-elle à redécouvrir des sources de sens qui dépassent notre seul intérêt personnel. Fin de « Et si l'intelligence artificielle redonnait du sens au travail » signé Mike James Gross, texte publié dans la page idée du devoir du 13 juillet 2026.